Z, pas comme zéro, mais Z comme héros, génie ou plutôt zénie, comme on disait petit, zénie au zénith, Z comme Zinedine, Yazid, Zidane, Sacré Zig, Zozo, Zigoto, né en 72 et surnommé Zizou, tsar du ballon, dans toutes les zones, joueur comme entraîneur, celui qu'on n'a jamais zappé, mais sur lequel on a zoomé, sur ses buzz ou ses 3-0, sur les coups de boule, zut, et les zillions de coups de pied sur ce terrain qu'il a zébré ou zigzagué pendant toutes ces années, celui qu'on a toujours aimé, Z comme Zizou, la dernière lettre de l'alphabet qui ose, qui zippe et qui résonne comme on faisait quand nous étions enfants, à zozoter, vous vous souvenez, et zézayer dès qu'on nous yotait Zizou, sans faire de zèle, c'était Zorro, Led Zepp ou le roi du zouk avec un zeste de Zeus, c'est un zeugme. Souvenez-vous, comme sans faire le zouave, souvent à ses aînes, il zigouillait la partie et sur la pelouse semait la zizanie. Et à ceux qui usent du verbe zlataner, on voudrait demander ce qu'ils disent de zidaner ou zizouir, tiens, qui ne sont pas assez utilisés. Je zidane, tu zizouis, nous zidanons, vous y jouissez, ça sonne comme une phrase qu'on disait quand on était marmot. Et qu'est-ce qu'on les aime, les émotions et les zéros.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Par quelles émotions de ballon rond mon invité d'aujourd'hui a-t-il été marqué, lui qui n'a jamais caché son amour de football. Ce n'est pourtant pas pour des exploits sur pelouse ou en maillot, short ou crampon que je le reçois ce matin, mais pour sa mise en scène du Triomphe de l'amour de Marivaux, créé à Amiens il y a quelques semaines, bientôt à Montpellier, puis au Théâtre des Bouffes du Nord, une pièce où la scène de théâtre devient le terrain d'un jeu de masques dans lequel les points se marquent à coups de mots. Bonjour Denis Podalydès, merci
bonjour.
Beaucoup.
Qu'est-ce que c'est qu'un zeugme d'être déjà là. C'est une figure de style.
Oui, c'est une figure de style. C'est quand deux constructions, en fait, sous forme d'ellipse, n'ont pas grand-chose à voir.
Pour le,
donc là, c'était un zeugme.
Ouais.
Ou un zeugma. Avant toute chose, quand je vous dis Zidane, Denis Podalydès, quelle image, quel mot vous viennent immédiatement à l'esprit?
Alors, comme lui, d'ailleurs, le match, la finale, 98, lui aussi dit, c'est le match qui m'a fait basculer, c'est dans l'équipe de la semaine dernière, hein, je n'invente pas. Journal que je lis tous les matins, c'est pratiquement la première chose que je lis, tout en vous écoutant, tout en en écoutant France Inter.
Ça doit donner quelque chose d'un peu intéressant.
Et donc, c'est ce par quoi j'entre dans la journée. Alors, donc le foot, des articles sur le foot, l'image du football, c'est ce qui m'extirpe de moi-même et qui me lance dans la journée.
Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti en 98, lors de la victoire?
Oui, c'est d'être hors de soi et d'être tout entier avec les autres, à partager avec les autres. C'est la, j'ai vraiment partagé la joie collective au sens le bleu, au côté black blanc beurre, ce que c'était qu'une foule, d'être bien dans une foule. Généralement, on se sent pas forcément très bien dans une foule. On se sent différent, tout en éprouvant ce qui nous unit. Mais là, au contraire, c'était le collectif à l'état pur.
Quel spectacle est-ce que c'est précisément un match de football? Denis Podalydès, là c'est à l'homme de théâtre que je m'adresse.
Oui, c'était une scène fantastique, surilluminée, surtraversée d'exploits, avec des couleurs d'une vivacité adorable, que j'adore, et le tremblé des filets quand le ballon vient s'y loger. Tout ça, ce sont des sensations qui me font pousser des cris, c'est lié à l'enfance aussi, je pense.
Mais alors justement, quand vous êtes dans un stade et que vous regardez le public, ça vous arrive de regretter qu'un spectacle de théâtre ne parvienne pas à déchaîner ce type de passion?
Alors je pense que le théâtre l'a déchaîné dans ses premiers temps, étant antiquité, je pense qu'on allait au théâtre comme on va au stade et qu'on y voyait des hommes, des femmes et même des dieux ou des demi-dieux, et que ça suscitait cette sorte de cri du cœur. Aujourd'hui, avec les siècles, ça s'est raffiné et quand ça se raffine, ça devient autre chose qui probablement, c'est pas comme un concert rock, et ça suscite d'autres émotions, peut-être des émotions qui sont plus filtrées par le langage, mais à leur racine, ce sont quand même les mêmes émotions. Enfin, il faut faire en sorte que c'est aussi le travail des acteurs et des metteurs en scène.
Est-ce qu'on peut ressusciter cette magie archaïque, à votre avis?
Je pense qu'on peut lui faire signe, mais la ressusciter telle quelle, je pense que c'est pas possible. C'est forcément différent, ça passe par d'autres canaux, mais l'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui en soit quand même préservé et ressuscité d'une manière ou d'une autre, plutôt métaphoriquement d'ailleurs.
En tout cas, dans le sport, dans le football, comme au théâtre, le spectacle repose souvent sur l'affrontement de deux parties adverses, sur le déploiement d'une stratégie pour arriver à la victoire, sur des moments de doute aussi. Quelle lecture sportive est-ce que vous pourriez faire du Triomphe de l'amour de Marivaux?
Alors, c'est un seul contre trois, c'est-à-dire le caractère central, la princesse Léonie, de maquiller, masqué en l'homme Phocion, jeune homme qui voyage, affronte trois adversaires. Si, ce serait par exemple Neymar, Zidane l'a fait aussi, mais Neymar dribblant trois défenseurs dans la surface de... C'est ce qu'il vient de faire encore ce week-end, cet animal, il a été blessé pendant 3 mois. Il revient, il marque un but fantastique.
Mais quel genre de sport est-ce que c'est, l'amour, pour vous?
C'est peut-être, ça réunit tout, à la fois tous les sports, hein, toutes les guerres, c'est à la fois hyper violent et délicieux. Prenez tous les contraires et vous avez l'amour. Il faut prendre tous les contraires, tout ce qui, je sais pas, l'envers de la cruauté, l'envers de la cruauté serait quoi? C'est la douceur, c'est à la fois doux et cruel.
Et un sport qui se joue avec des mots?
Et qui se joue entièrement avec des mots.
J'aimerais que vous nous les fassiez entendre, ces mots de Marivaux, dans la scène 8 de l'acte 1. Scène où Phocion, donc, tente de séduire le philosophe Hermocrate qui, lui, a renoncé à l'amour.
Oui, Seigneur, je vous aime. Mais ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas ici d'un penchant ordinaire. Cet aveu que je vous fais, il ne m'échappe point. Je le fais exprès. Ce n'est point à l'amour à qui je l'accorde. Il ne l'aurait jamais obtenu. C'est à ma vertu même à qui je le donne. Je vous dis que je vous aime parce que j'ai besoin de la confusion de le dire. Parce que cette confusion aidera peut-être à me guérir. Parce que je cherche à rougir de ma faiblesse pour la vaincre. Je viens affliger mon orgueil pour le révolter contre vous. Je ne vous dis point que je vous aime afin que vous m'aimiez. C'est afin que vous m'appreniez à ne plus vous aimer moi-même. Haïssez, méprisez l'amour, j'y consens. Mais faites que je vous ressemble. Enseignez-moi à vous ôter de mon cœur. Défendez-moi de l'attrait que je vous trouve. Je ne demande point d'être aimé, il est vrai, mais je désire de l'être. Ôtez-moi ce désir. C'est contre vous-même que je vous implore.
Qu'est-ce qui attire votre attention dans cette déclaration d'amour de Nippodamidès?
C'est sur le magnifique paradoxe qu'elle énonce, c'est-à-dire enseignez-moi à ne plus vous aimer, alors que le texte produit exactement
l'inverse,
un effet de séduction maximale, tout en réclamer à quelqu'un qu'il ne vous aime plus, c'est peut-être la meilleure façon de faire en sorte qu'il vous aime. Et Hermocrate, évidemment, le personnage tombe tout à fait dans le panneau, et je pense que cette réplique, c'est toute la beauté de Marivaux, notamment dans cette phrase « Je vous dis que je vous aime parce que j'ai besoin de la confusion de le dire, la confusion de dire qu'on aime pour que l'autre ne vous aime pas ». Et ce qui, évidemment, alors c'est une machine langagière, c'est que ce ne sont que des mots, mais ça produit un affect amoureux et énorme.
Dites-moi, quel rôle a joué précisément le théâtre dans votre apprentissage de l'amour et de ses mécanismes?
Alors, je pense, j'ai très tôt senti que le théâtre, le fait de passer par un personnage, de monter sur une scène, de passer par un personnage, de dire du texte, me transformait aux yeux de mes camarades et notamment aux yeux des jeunes filles que je devais convoiter. Et que c'était mettre ce masque-là était une façon à la fois de me cacher, de cacher ma timidité et de révéler quelque chose que j'avais à l'intérieur, mais qui ne pouvait pas se montrer autrement que par là.
Ça veut dire que vos déclarations d'amour étaient des citations? Des soliloques, des monologues de théâtre?
La déclaration d'amour, c'était peut-être ça, c'était monter sur une scène et adresser sous le masque d'un personnage à un autre qui était, alors ça pouvait être complètement fantasmatique, qui était la fille que j'aimais, lui adresser effectivement les mots d'un autre, probablement, et j'avais besoin de passer par les mots d'un autre pour que les miens puissent avoir quelques crédits.
Celle qui n'est jamais contre une déclaration d'amour dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Denis? C'est la culture. Il y a son actualité qui déclare sa flamme à tout va, à tout vent et au tout venant, et dont les sentiments sont rarement réciproques. Hélas, que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 4 juin?
On peut écrire fief un peu dans tous les milieux, à partir du moment où je crois pas qu'il faille venir de banlieue périurbaine pour avoir 20 ans et être perdu dans la vie.
Il a fait d'Inter son fief. Le primo-romancier David Lopez a été choisi pour être le 44e lauréat de notre prix du livre Inter sous la houlette de l'impayable et truculente Eva Bétan. Le jury d'auditeurs, présidé par Leïla Slimani, a encore une fois fait preuve d'une rare audace en récompensant un texte moderne, tonitruant et fier, la chronique explosive d'une jeunesse périurbaine et désenchantée, véritable révélation de l'automne littéraire 2017. Bravo Hugo.
10 years ago I bought you some cufflinks. You brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust.
Joan Baez en ville, la diva folk américaine entame aujourd'hui une série de 15 concerts à l'Olympia répartis sur 2 semaines en juin et février prochain. Une tournée qui résonne comme un dernier tour de piste pour la musicienne qui a célébré ses 60 ans de carrière en mars dernier avec l'album Whistle Down the Wind. Cet été, elle sera aussi à Marciac et Arles, puis Strasbourg cet hiver. Elle a même promis de chanter quelques titres en français. Allez! Chalon en Furie, le festival Furie, consacré aux arts du cirque et au théâtre de rue, s'installe une semaine à Chalon-en-Champagne, dans la Marne. Acrobate, poète, contorsionniste et autres équilibristes, c'est près d'une cinquantaine de spectacles qui va transformer la ville en scène ouverte. On pourra notamment y applaudir la compagnie Octobre, qui présente Midnight Sun, sa maison des horreurs. Bonheur. Humility, Gorillaz est de sortie. Le duo formé par Damon Albarn et Jamie Hewlett est de retour et pour annoncer son nouvel opus, The Now Now, prévu pour fin juin, la formation a révélé pas moins de 2 morceaux et un clip inédit, notamment le très cool Humility qui précipite dans son clip les fameux personnages du groupe sur la promenade de Venice Beach. Let's groove. Et Denis Podalydès, très ému quand il entend la voix de Joan Baez, j'ai l'impression.
Oui, parce que j'ai... comment s'appelait cette chanson? Here's to you, Nicolas and Bart.
Ouais.
Ah, c'est ça, Nicolas and Bart. On a écouté ça avec Bruno, mon frère, pendant des mois, des années, probablement. C'était une chanson qu'on chantait. Je me demande, c'est pas la première chanson qu'il a chantée à la guitare. Enfin, c'était une voix. Ma mère, professeure d'anglais, adorait faire écouter ça à ses élèves et elle nous faisait écouter. Et la voix de Joan Baez, nous a amené aussi Bob Dylan. Enfin, a couvert nos soirées, nos après-midi. On avait un petit 45 tours d'ailleurs de cette chanson-là.
Elle est en France.
Je suis en train de même d'écrire un petit texte.
Sur Joan Baez?
Sur cette chanson-là, sur le comment on la chantait, puisque j'essaie de terminer un livre comme ça qui raconte des petits moments, des instants, ça s'appelle les instants disparus d'enfance. Et il se trouve que j'essaie de recapter le vif qu'il y a dans ce souvenir-là.
Le triomphe de l'amour, pour lequel je vous reçois ce matin, créé à Amiens, bientôt à Montpellier et au Bouffes du Nord, c'était déjà pour votre travail de metteur en scène que je vous avais reçu, Denis,
oui,
il y a 3 ans.
C'est vrai.
À quel moment de votre parcours théâtral est-ce que le désir de mettre en scène vous est apparu?
Alors, il est à la fois apparu très tôt. C'est-à-dire tous les spectacles que je jouais à l'école, j'en étais aussi le metteur en scène. Et assez tard, parce que j'en ai eu peur, tout simplement. J'ai eu peur de mettre en scène, ça m'intimidait énormément, ça me paraissait au-dessus de mes forces.
Alors qu'est-ce qui vous a décidé?
Alors ce qui m'a décidé aussi, ce sont des personnes, c'est-à-dire il y a Gilbert Filinger, que vraiment je rends hommage, qui a dirigé la Maison de la Culture de Bourges, puis la Maison de la Culture d'Amiens, dont il vient de céder la direction à Laurent Dréano, qui nous a accueillis là pour la création. Et lui a été pour beaucoup en me disant, mais non, continue, il faut que tu le fasses. J'en avais fait une qui n'était pas franchement une réussite. Quand elle a été reprise, la création avait été très bien, et puis la reprise à Chaillot, ça c'était en 93 à peu près. Et puis, il m'a convaincu de mettre en scène les pièces d'Emmanuel Bourdieu, de mon ami Emmanuel. Donc j'ai monté 3 pièces d'Emmanuel. Et puis ensuite, à la Comédie Française, c'est aidé par Éric Ruff. On avait proposé Cyrano de Bergerac à Marcel Bozonnel.
Ce sont les autres, en fait, qui vous décident,
oui,
à vous consacrer à telle ou telle œuvre.
Oui, ça passe beaucoup par les autres, par les acteurs, l'équipe aussi, et puis... oui, quelquefois la force de... Parce que je suis individuellement, disons, je suis acteur avant tout. Et metteur en scène, je le suis par la... la force, ce que m'apportent les autres, des acteurs à mettre en scène et aussi des directeurs de théâtre.
Mais là, pourquoi le triomphe de l'amour? Qu'est-ce qui vous intriguait tout de suite? Vous qui avez joué, il faut le rappeler, au début de votre carrière, dans certaines pièces de Marivaux, je pense aux Fausses Confidences, oui. À l'épreuve ou à la double inconstance.
Ouais, les sincères, l'amour de la langue de Marivaux, je pense, le fait de parler d'amour. Faire parler d'amour à des gens, ça fait vraiment partie de l'existence sociale la plus commune. Nous parlons d'amour, nous ne faisons pas que faire l'amour. Là, je pense d'ailleurs, on parle beaucoup plus d'amour qu'on ne le fait, et on en a besoin. C'est un besoin, je crois. Le puritanisme essaye d'arrêter qu'on fasse l'amour, arrêter qu'on en parle, parce que c'est aussi une arme. C'est à la fois ce qui crée la sociabilité et c'est ce qui la met aussi en danger. Et Marivaux remarque ce paradoxe au 18e et il sent qu'il y a une matière de théâtre infinie. Et donc, ce désir-là, faire parler d'amour et en parler sur la scène, à travers tous les masques, et puis le jeu à la fois comique et dramatique, le jeu cruel et c'est délicat que ça suscite.
Et puis, Denis Podalydès, quand on s'adresse quelque part à un classique, on se pose des questions, je suppose, celle aussi de savoir ce qu'un texte nous dit d'aujourd'hui, non ?
Oui, alors Marivaux, je remarque que même si la langue est ancienne, la langue nous parle. Une langue théâtrale ancienne, si elle est demeurée, si elle vient jusqu'à nous, c'est parce qu'elle contient une substance, une alchimie qui fait qu'elle est vivante. Et même si on ne cherche pas spécialement à l'actualiser, même si on la tire pas à nous, le fait de parler d'amour de cette manière-là, avec toutes les équivoques possibles, pour peu que vous soyez attentif à la notion de l'équivoque, ça nous parle.
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai l'impression que votre mise en scène ne cherche pas à réinventer le classique ou à jouer avec les conventions du théâtre. Ça reste une pièce en costume avec un dispositif assez traditionnel. Pas de vidéo, pas de projection, pas de performance, comme on peut en voir à peu près partout, y compris à la Comédie-Française aujourd'hui. Comment vous l'avez conçue, votre mise en scène? Comment vous l'avez pensée?
Je pars du texte et de certaines sensations qui sont premières et j'essaye aussi qu'elles soient à la toute fin du processus. Effectivement, la langue de Marivaux est une langue vraiment du 18e et j'aime la voir au 18e. Je ne suis pas convaincu par les actualités. Par certaines actuelles. Il y en a qui sont... Les Allemands font ça très bien. J'ai l'impression qu'ils font ça mieux que nous. Pour ma part, au contraire, j'aime assez l'avoir... J'ai même envisagé plutôt de l'avoir au 17e. Je ferai des inactualisations, c'est-à-dire j'ai envisagé à un moment de la monter, parce que Marivaux a 20 ans quand Louis XIV meurt, et toute la naissance de son théâtre est influencée par Racine. Et il y a du Racine chez Marivaux, seulement au milieu de personnages raciniens, il injecte des arlequins. Voilà, la grande innovation de Marivaux, c'est ça, c'est d'injecter dans la comédie noble française, ou dans un univers tragique, d'y mettre des arlequins, des personnages italiens.
Et puis, le discours sur l'amour dont vous nous avez parlé, quel discours sur l'amour? Vous savez qu'on va en reparler, ça, hein, de mise en scène, mais aussi d'acteurs et d'amour, juste après Peggy Lee, tiens, qui chantait Cole Porter. Let's do it, let's fall in love, 1941, vous êtes sur France Inter avec Denis Podalydès. Vous écoutez Boomerang un lundi. That's why the chinks do it, Japs do it, Alvin Lifeland, little Laps do it, Willis do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians and let's do it, Willis do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it, though it shocks them, I know. Buy acid shads, do it, way to bring me shad roll. Some Argentines without means, do it, people say in Boston even beans, do it, well, let's do it, let's fall in love.
to mention the fiends. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. The birds do it, bees do it, even overeducated, please do it. Well, let's do it. Let's fall in love.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Non mais c'est vrai qu'il est du genre à vous faire tomber. Hein. Let's fall in love, il n'y a pas en douter. Le roi des crocs en jambes, hein. Des pots de banane et des farces et attrapes avec son air de coquin en embuscade. Cet œil dont l'innocence dissimule assurément quelque chose d'un peu tordu. Son sourire de poil à gratter et son cheveu clairsemé avec son petit t-shirt gris. Ce matin, Denis Podalydès, invité de Boomerang, pour sa mise en scène du triomphe de l'amour, l'histoire d'une jeune femme, on le disait Léonide, travestie en faucion qui pour atteindre l'homme qu'elle aime élimine... En les séduisant, tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Et pour ce faire, elle se déguise donc en homme. Qu'est-ce que ce jeu de masque nous dit du théâtre de Marivaux, pour vous ?
Le jeu de masque, Marivaux dit quelque part dans ses proses, tous les visages sont des masques. Un visage est par nature un masque. C'est-à-dire, on se montre, on se cache systématiquement. Il n'y a pas de situation où on n'est pas, d'une certaine manière, masqué, puisque toute société suscite un théâtre. Alors ça, c'est une sorte de préalable. En fait, il fait la même découverte que Shakespeare. All the world is a stage. Le monde entier est une scène. Nous sommes dans une coulisse intérieure. Et puis, dès que nous sommes en société, eh bien, nous montons sur une scène. Il y a déjà ça. Et alors, sur cette scène, on met un deuxième masque. Il y a un masque de sociabilité, puis le masque de l'autre sexe. Alors... immédiatement, ça suscite... C'est presque révolutionnaire, ça, de faire ça. Parce que les travestis féminins, donc de femmes en hommes, chez Marivaux, découvrent la puissance du pouvoir masculin. C'est ça qui intéresse beaucoup Marivaux. Je pense que Marivaux, rencontrant des actrices au 18e, il se met à rêver de ce qu'est une femme, ce que peut une femme, quel est le pouvoir de la femme, alors qu'elle est partout dominée. Alors qu'elle est même exploitée. Et une femme avançant sous le masque d'un homme, alors c'est une bombe atomique, au sens pur, c'est-à-dire ça suscite un trouble. Et moi, je me souviens, en mettant en scène Cyrano de Bergerac, je voulais que parmi les cadets de Gascogne, donc les soldats, il y ait des femmes en hommes.
Ouais.
Et alors ça a créé une image intensément érotique, c'est-à-dire tout le monde s'est mis à regarder les filles en garçons avec un regard à la fois amusé et amoureux. C'était les filles qui étaient assises avec des moustaches, des petites perruques qui étaient des perruques de 3 francs 6 sous, et puis leur costume de militaire se sentaient d'ailleurs avec un pouvoir de séduction énorme. Et ça m'a fait rire, ça m'a étonné, ça. Je me suis dit, mais c'est curieux, ça en met une femme en homme, et aussitôt, sa force de séduction est intacte. Je pense que Marivaux avait ressenti la même chose, et il s'est dit, et en plus, avec force de cette convention théâtrale, on va aller gratter un petit peu dans les rapports humains.
Vous parlez de convention théâtrale. Je me dis, pour un comédien, cette permanence du masque, ça fait de la pièce immédiatement une pièce sur le comédien aussi.
Ah, bah oui, non oui. Je pense que c'est ça aussi qui séduit dans le théâtre de Marivaux, qui séduit aussi les acteurs. C'est parce que l'art d'acteur est à la fois caché derrière le personnage et exhibé. Le personnage fait l'acteur dans la pièce.
Qu'est-ce que c'est un comédien pour vous, Denis Podalydès ?
Je ne sais pas. Être comédien, c'est le pouvoir d'être l'autre, de se mettre à la place de l'autre, mais de s'y mettre de manière tout à fait concrète. Être un autre que être l'autre de soi. Être l'autre. Être autre.
Et quel rôle est-ce que vous avez l'impression de jouer en tant que metteur en scène dans l'accompagnement de vos comédiens ?
Je joue le rôle du... Parfois c'est le rôle du père. Parfois c'est le rôle de la mère. Parfois c'est le rôle du grand-père. Parfois c'est le rôle du frère. C'est une succession de places, en fait, metteur en scène.
C'est la voix de l'un de vos professeurs que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin ? Celle de Michel Bouquet, qu'on entend ici à la fin des années 80.
Ce qui est très très important pour un acteur, c'est qu'il faut que le style se dégage de la réflexion. Le style, c'est la personnalité exprimée. Le grand problème, c'est d'arriver à faire des choses particulières sans le vouloir. Elles sont particulières dans la mesure où on est fidèle à soi-même, mais que toute l'attention, enfin toute la réflexion de l'acteur est tournée vers la responsabilité majeure qui est d'être fidèle au personnage, mais surtout à l'auteur, à partir de ce moment-là, le style particulier à cet acteur va trouver sa forme, son intérêt, ce qu'il a d'unique. Alors, ce n'est pas la peine de se prendre le cerveau en se disant « il faut que je sois original » ou « il faut que je sois Joulette ».
Qu'est-ce que vous entendez dans la voix de Michel Bouquet, de Denis Potalides, vous qui êtes si sensible aux voix, comme en témoignait votre livre « Voix off »
J'avais fait un portrait de cette voix, du son tranchant. C'est une voix qui, sitôt qu'elle parlait, nous captait dans ses raies et nous fascinait. Parce que j'ai choisi aussi ça parce que je suis des interlocuteurs. Ce sont des cours au conservatoire donnés dans l'année 86-87. C'est l'année où j'étais élève. Donc, le Michel Bouquet qui parle s'adresse à moi, à Patrick Pinault, à Marianne Medeiros, à Philippe Huchon, à Vincent Chouvet, à tous les élèves de ma classe. Et donc, quand je l'entends, j'ai un souvenir tout à fait immédiat, concret, du studio où on entendait cette voix et qui m'est parvenue, dont certains contenus d'ailleurs ont mis des années à me parvenir concrètement. Il y avait aussi une parole presque sibylline quand il nous dit vous devez être comme ça, c'est en étant fidèle à l'auteur que vous serez fidèle à vous-même, cherchez pas à être originaux. Je n'entendais peut-être que la chose théorique, il a fallu des années pour que ces choses-là me soit à peu près naturel.
Il parle de fidélité à soi-même, mais aussi de fidélité au personnage et au texte. Qu'est-ce que ça veut dire rester fidèle à soi-même quand on est comédien ?
C'est très dur. C'est très très dur. Moi, je pense que quand on est comédien, c'est uniquement les autres qui possèdent notre vérité. Nous, on n'en sait strictement rien. Ce sont les autres qui vous disent « là c'est toi, là c'est pas toi ». Vous-même, vous pouvez en avoir une vague intuition. On le sent quand on n'est pas tout à fait soi-même.
C'est-à-dire que certains rôles sont impossibles à jouer, en fait.
Alors j'aime jamais dire que pour moi un acteur peut tout jouer. Dans l'idée, il faut se dire qu'un acteur peut tout jouer. Sinon, on est cantonné à un emploi et on se répète infiniment. Mais c'est aussi, ça fait partie du métier de se répéter. D'ailleurs, c'est ça qu'on fait les trois quarts du temps. On ne fait que répéter. Mais répéter, c'est évidemment se mettre dans l'état de recréer. Oui, je ne saurais rien dire d'autre que faites confiance à celui qui vous regarde.
Ce sont les mots de Philippe Plançon dans Le Lambeau, oui, que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin pour terminer cette émission. On va vous écouter juste ce texte et conclure.
Alors c'est un passage où Philippe Plançon, à l'hôpital, où il se fait reconstruire la mâchoire qui... La balle a traversé son visage, après les attentats de Charlie Hebdo, évidemment, et où il reçoit Laurent Geoffrin et François Hollande dans sa chambre. Et Philippe Sanson m'excusera, j'ai un petit peu... j'ai dû couper pour en garder ce que je voulais lire ce matin. Je connaissais Laurent Geoffrin depuis 30 ans. Pour la première fois, j'ai vu ses yeux légèrement piqués, cernés de rouge, embués par l'émotion. Laurent, cible récurrente des brutes de droite et des ivrognes intellectuels de la colère sociale, avait la réputation d'être un notable indifférent, un acrobate du compromis. En réalité, son talent choisissait ses passions et livrait le reste à ce qui, lorsqu'on le connaissait, le rendait presque enfantin, son étourderie. Les choix politiques sont souvent les effets des caractères. Laurent était social-démocrate par nature, par conviction et par rejet d'une violence que son père avait incarnée. Il raffolait du débat et même du duel, mais il fallait que ça s'arrête au premier sang et que, une fois sorti du champ, les adversaires se saluent. Il croyait au progressisme, à l'arrangement, à la conciliation, à une forme de négligence civilisée, et s'il n'était pas forcément très éduqué, il respirait la civilité. Sa morale était faite pour une guerre tranquille, en temps de paix, où les mauvaises actions des uns ne détruisaient pas entièrement et massivement les vies des autres. Au grand soir, il préférait les crépuscules allongés. Je peux m'arrêter là, je peux continuer aussi, mais...
On va s'arrêter là parce qu'il y a Sonia De Villers qui nous attend.
Ah bah oui. Pardon.
Mais merci infiniment Denis Podalydès pour ces mots tirés du si beau livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, que vous retrouverez en librairie et en bibliothèque. Et comme on vous invite à le découvrir ce livre, je rappelle Denis que Le Triomphe de l'Amour sera du 7 au 9 juin à Montpellier, puis du 15 juin au 13 juillet au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, sans oublier les 20 et 21 juillet à Château-Vallon. Je vois poindre aussi une certaine Bécassine au cinéma, mais vous reviendrez évidemment sur France Inter pour nous en parler tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
T'as jamais vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Clara Luciani sur France Inter, et c'est la grenade Sonia De Villers qui nous attend. Les médias, l'instant M.
D'ici à dire que ça va péter.
Oula, dérapage.
Dans le studio,
matin.
Non. Non, non, non.
Allez, à demain.
La grenade est quand même bien goupillée. Allez, ciao.
Salut. Justin.